Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est tout pile 9h40. Merci à tous et à toutes d'être fidèles à France Inter et à l'instant.
Série, on sait que ça va se terminer.
Vous me spoilez?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
300 films produits en France l'année dernière, plus de 200 millions d'entrées en salle, dont 40% pour des films français cocorico. Nous allons bien plus au cinéma que les Anglais, que les Allemands, que les Espagnols ou que les Italiens. Et notre cinématographie porte haut, d'autant que chaque ticket acheté, même pour un film américain, finance le cinéma français et que le cinéma français finance à son tour des films iraniens, roumains, belges ou russes encore. Bref, une bonne partie du 7e art international repose sur nos épaules. Sauf que nos épaules sont de plus en plus fragiles. Qui paye, à votre avis? Eh bien, ce sont les chaînes de télévision. Oui, mais les chaînes privées ne veulent plus autant payer. Et les chaînes publiques? Eh bien, des chaînes publiques, on attend toujours plus d'économies. Est-ce que les géants américains de la vidéo sur Internet, les Netflix et autres Disney, vont payer, eux? C'est l'un des enjeux de la loi en préparation sur l'audiovisuel.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Et à mes côtés ce matin, Radu Mihailanu. Bonjour,
bonjour
Radu. Vous êtes le vice-président de l'ARP, c'est l'Association des réalisateurs producteurs, dont le président est aujourd'hui Pierre Jolivet.
Exactement.
Qui était avant vice-président.
Exactement.
Donc tous les deux, vous faites un petit duo Medvedev-Poutine, vous vous échangez les postes.
Tout à fait. Non, il m'a demandé lorsqu'il a été élu président de rester puisqu'il y avait une continuation d'un tas de dossiers depuis mon mandat. Donc je suis resté avec toujours Olivier Nakache et Nathalie Marchat qui sont les deux autres vice-présidents.
Voilà. Et alors on va parler de plein d'autres présidents puisque demain commence à Dijon les rencontres de la cinématographie. C'est un moment extrêmement important de débat pour toute la profession. D'ailleurs, le ministre de la Culture, Franck Riester, y sera également et présideront ces rencontres de la cinématographie d'autres confrères que sont Jeanne Herry et Cédric Clapiche. Est-ce que j'ai nommé tous les présidents, mon cher?
Vous avez nommé tous les présidents. Il en manque un qui est en Chine,
oui.
Accompagné de Guillaume Canet, qui, j'espère, va militer pour le cinéma français.
Voilà, ça c'est Emmanuel Macron. Alors, évidemment, comme chaque mardi, il y a Xavier Delaporte avec sa fenêtre numérique, mais Xavier Delaporte est coincé dans le métro. Donc on commence tous les deux et puis on l'attend avec plaisir. On va piocher ce matin, Radu Mihailanu, dans le projet de loi portant sur une vaste réforme de l'audiovisuel. On s'intéresse à l'avenir du cinéma dont dépend l'avenir que va verser l'argent, que vont verser les chaînes de télévision, mais également peut-être les plateformes. On commence sujet par sujet. Une troisième coupure publicitaire lorsqu'on regarde un film de cinéma sur TF1 ou M6. Le ministre a dit oui et vous, vous dites quoi ?
Nous, bien évidemment, on n'est pas tout à fait d'accord, mais encore une fois, il y a deux batailles qui sont déjà perdues, puisque ça va passer par décret.
Ouais.
C'est effectivement la troisième coupure publicitaire.
Vous vous dites ça massacre
bah,
nos films.
Ça massacre les films, et surtout, c'est dommage au niveau concurrentiel par rapport aux chaînes en clair, par rapport à Netflix et autres, et qui, eux, n'ont pas de coupure publicitaire. Donc, les spectateurs risquent de migrer vers ces plateformes.
De se dire, ça vaut le coup de payer un abonnement, mais au moins, j'ai un film intact.
Au moins, je suis tranquille et je vois l'œuvre d'un coup.
Voilà. La question de la publicité, c'est aussi la possibilité pour les films qui vont sortir en salle de faire leur pub à la télévision, comme ça par exemple.
Promets-moi que nous avancerons main dans la main.
Je te le promets.
Chaque jour, un nouveau défi, mélange de gloire et pouvoir. Une partie de moi s'en va.
Ça, c'est la Reine des Neiges 2. Oui. Gros Disney qui va sortir le 20 novembre.
Bah, là aussi, on n'est pas d'accord, mais on nous a promis, et encore une fois, c'est fait, ça va être fait par décret, donc ça va être même pas discuté.
Ouais.
On nous a promis que ça sera juste une expérimentation d'un an et qu'ensuite on pourra débattre.
Pourquoi
nous, on est complètement contre parce que ça va accentuer la tension entre les plus riches qui pourront payer et annoncer sur les chaînes de télévision en clair et les plus pauvres, donc le cinéma dit un tout petit peu d'auteur, qui n'est pas inintéressant puisque Nakache Toledano font du cinéma d'auteur, ne l'oublions pas, mais et Cédric Clapiche, Jeanne Herry aussi, moi-même aussi, mais ceux-là ne pourront pas payer ces prix-là pour annoncer. Donc on sait que tous les mercredis, lorsqu'il y a entre 16 et 18 films qui sortent, il n'y en a que 3 qui peuvent marcher grâce à leur notoriété. Donc ça va accentuer la notoriété notoriété des gros films américains et les gros films
français. Et rendre
français,
encore plus invisible.
Plus invisible, sachant aussi qu'on nous donne des écrans, c'est-à-dire des salles, on nous donne l'accès pour un film dans les salles, en fonction de notre notoriété. Donc il y a de plus en plus de films qui vont se retrouver avec 1000 écrans à la sortie, sur un parc de 5500 écrans en France, et d'autres films qui n'auront que 5 écrans. Donc et après, comment voulez-vous qu'on fasse une carrière cinématographique ?
Ça pose une question absolument fondamentale, Radou Mihaelanou, c'est à quoi ça sert une loi, si ce n'est justement à équilibrer les rapports entre les très puissants de l'image, de l'audiovisuel et du cinéma, et ceux qui sont beaucoup plus faibles dans un monde globalisé.
Exactement, vous l'avez dit, j'ai réfléchi, lorsqu'on a inventé les lois, les constitutions, c'était effectivement pour qu'on arrête la loi de la jungle, la loi du plus puissant, et équilibrer effectivement le rapport de force entre les plus puissants et les plus faibles. Et aussi de donner à tout le monde d'une manière égale des droits et des obligations. Mmh. Aujourd'hui, on est dans un monde globalisant où on voit bien qu'il y en a qui ont que des droits et n'ont aucune obligation. Je parle des géants d'Internet qui ne payent pas d'impôts, qui ne payent pas de la TVA, ils commencent à peine à payer de la TVA et qui n'ont aucune obligation, alors que par exemple nos acteurs nationaux, parce qu'ils profitent des œuvres et ils ont des spectateurs, ils engrangent de l'argent, des recettes grâce aux œuvres, eux ils ont des obligations, c'est-à-dire ils prennent de l'argent et en échange ils en donnent pour que d'autres œuvres soient créées.
On va en parler.
Les géants d'Internet américains, d'une part, n'ont aucune obligation, alors que je donne un exemple, Netflix a 6 millions de spectateurs. Donc nous, on est ravis que tous ces gens-là viennent diffuser chez nous. Encore une fois, on ne veut pas du tout fermer la porte.
Ouais.
Juste leur dire, faut que vous vous aligniez sur les droits et les obligations des autres, comme TF1, France Télévisions, Canal+, Orange, etc.
Alors, etc. On va parler justement de ce projet d'aligner tout le monde sur les droits et les obligations, mais un mot d'abord sur un sujet qui est extrêmement important pour vous, cinéaste, c'est la question du droit moral. Parce que quand on parle du droit d'auteur, on imagine toujours la question de la rémunération. C'est-à-dire, est-ce que je vais toucher de l'argent chaque fois que mon œuvre sera utilisée par quelqu'un ou diffusée quelque part ? Mais derrière le droit d'auteur, il y a aussi le droit moral. Ça signifie quoi ? Et c'est au cœur de cette
Exactement.
Loi.
Ça a été inventé par Voltaire et Beaumarchais en France. Et quelque chose de génie, c'est pour rendre l'auteur libre d'avoir un point de vue sur le monde. Aujourd'hui, on est grosso modo dans trois modèles, si je peux dire, d'audiovisuel. Il y a le modèle qui tient compte que du marché, qui est le modèle américain, c'est-à-dire une œuvre, elle doit rapporter de l'argent point barre, c'est le système hollywoodien, même s'ils ont malgré ça énormément de réalisateurs et d'auteurs très intéressants. Il y a le modèle chinois qui va arriver, qui est un modèle plutôt idéologique, et la seule résistance où c'est le point de vue d'un artiste...
Un modèle idéo-idéologique, c'est-à-dire on va dire clairement les choses, Radou Mihaelanou.
On va dire clairement les choses, on n'a pas le droit de parler d'homosexualité, de religion, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'interdictions.
Et c'est un cinéaste qui a fui la Roumanie qui vous en parle. Voilà. Oui, c'est leur modèle à eux. Et en France, et en Europe.
On a inventé quelque chose qui résiste à tout ça, qui résiste à ce que ce soit que l'argent qui ait un point de vue sur le monde, ou qu'une idéologie, c'est l'auteur, l'artiste. Et en France, on a cette capacité, lorsqu'on va dans un musée, lorsqu'on va à un concert, on va écouter ceux qui ont créé et non pas ceux qui ont payé la création.
C'est ça.
Et donc, en France, on a ce droit moral qui veut dire...
Ce droit moral, concrètement, Radou Mihaelanou, ça veut dire, je suis cinéaste, le fin mot, c'est moi qui l'ai. À quoi doit ressembler mon film, ce qu'il doit raconter, que dit son générique, qu'est-ce qu'on montre à l'image ?
C'est ma vision.
Personne ne peut me la dicter. Ni le producteur, ni le diffuseur, ni Netflix.
Si, avec le producteur, parce que ça défend en même temps la production indépendante, c'est-à-dire l'éditeur, si on peut dire. Ouais. C'est un couple, c'est l'auteur et le producteur, c'est marqué dans la loi déjà, mais il faut la renforcer. C'est le producteur et l'auteur qui ont l'avis final définitif, le point de vue définitif sur une œuvre.
Ouais.
Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a une tendance qui malheureusement arrive aussi en France, malgré la loi, où c'est celui qui paye, qui veut avoir le point de vue définitif. Ça, pour nous...
Donc les plateformes, donc les chaînes...
Tout le monde. Maintenant, ils disent c'est nous qui payons, alors que c'est pas celui qui finance qui a un point de vue.
Le ministre va plutôt dans votre sens.
Et ils ont aussi compris que c'est notre seule défense contre les deux autres modèles. C'est notre seule façon de nous défendre contre le modèle du marché qui nous envahit et qui veut nous écraser.
Et qui est le modèle américain.
Et qui auront toujours beaucoup plus d'argent que nous. C'est-à-dire, moi, j'ai fait les calculs. Cette année, peut-être, le modèle américain, ils mettront 100 milliards de dollars sur la table entre Disney les autres. On ne peut pas les
construire. C'est dingue, hein, c'est une période absolument incroyable.
Ah oui,
100 milliards de dollars pour produire des
pour
films
faire une blague,
et des
moi,
séries.
Moi, à l'école, j'avais refusé d'apprendre ce que ça voulait dire les milliards en disant « mais on n'aura jamais besoin, on ne comptera jamais en milliards ». Et aujourd'hui, il y a des gens qui possèdent des milliards. Et donc on ne va jamais les concurrencer sur ce terrain-là de l'argent. Comme depuis toujours, on les concurrence sur le droit d'auteur.
Allez, nouvelle pub Canal+, avec l'acteur Cadmerade.
Écoute, les gens, ils sont pas débiles. Ils vont bien comprendre qu'on parle de bip dans une pub pour Canal+.
Ok, Cad, laisse-moi t'expliquer. T'as pas eu le nouveau script. Donc là, on doit annoncer qu'avec Canal+, on a aussi accès à Netflix.
Oh, donc dans une pub pour Canal+, on peut dire Netflix?
Exactement. Par contre, on peut pas dire p***.
Ah, parce que j'ai dit p***.
Ouais.
Oh, merde.
Désormais, avec Canal+, vous avez aussi accès à Netflix.
Et voilà, Netflix, c'était le grand méchant. Et maintenant, il y a eu un deal entre Canal+ et Netflix. Et maintenant, quand on est abonné à Canal+, on peut avoir accès à Netflix. Je rappelle pour tout le monde, parce que tout le monde nous écoute, que Netflix, Disney+, Amazon, ce sont des énormes sites internet qui proposent de la vidéo, du documentaire, de la série, du cinéma, etc. Et on y a accès en s'y abonnant. Alors, traditionnellement, en France, Radou Mikhaël et Anou, les chaînes de télévision financent le cinéma. Les plateformes aussi, c'est tout l'enjeu de cette réforme de l'audiovisuel. Expliquez-nous.
Encore une fois, nous, notre point de vue, c'est les inviter les bras ouverts en disant, chez nous, il n'y a pas de censure, venez diffuser.
Ouais.
Mais en échange, vous ne pouvez pas juste capter notre marché.
Ça, vous
par
nous
exemple,
avez expliqué.
Par
ouais.
exemple, Netflix, 6 millions d'abonnés, sans rien contribuer à la création française et européenne.
Le problème, c'est comment les faire payer.
Le gouvernement, en tout cas le ministère de la Culture, a fait une proposition qui nous paraît inapplicable, qui est 16% du chiffre d'affaires.
Oui.
C'est une bonne intention, sauf que nous, on ne veut pas juste des bonnes intentions, on veut vraiment des lois applicables.
Mais pourquoi c'est inapplicable? Parce que c'est là où ça devient très intéressant.
D'une part, tous ces acteurs ne sont pas du tout transparents sur leur vrai chiffre d'affaires.
Voilà.
Entre les abonnés, entre la publicité, entre la data, etc. Ils sont tous basés à Amsterdam ou en Irlande.
Mm-hmm.
Donc, pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'il y a des avancées à l'Europe, on ne peut pas les capter. Et on voit l'exemple à Google. Même si la loi lui impose de payer 3%, il refuse de le faire et il profite d'une position dominante.
Mm-hmm.
Donc, alors nous, on a eu une idée qui est beaucoup plus maligne.
Dites-nous.
C'est de dire, il faut qu'ils participent.
Ils sont superbes cinéastes.
Un minimum, ce qu'on appelle un minimum garanti par abonné, puisque ça, c'est très transparent et facile de le
savoir. Par abonné et pas en fonction du chiffre d'affaires.
Pas en fonction du chiffre d'affaires.
Alors, c'est quoi un abonné? Dites-nous.
Un abonné, c'est pas celui qui voit forcément une œuvre, c'est celui qui a accès aux œuvres. Par exemple, je donne l'exemple d'Amazon. Amazon Prime, c'est 50€ par an. Encore une fois, livraison comprise. Donc, le chiffre d'affaires est quasiment nul. 16% de ce chiffre d'affaires-là, ça va rien rapporter. Mais Amazon ouvre une porte vers nos œuvres.
Oui.
Donc, celui à qui on ouvre la porte, égale abonné. Qu'il aille regarder ou pas, qu'il regarde une minute, une seconde, c'est pas notre problème. On lui a ouvert la
porte. Et ça, c'est plus facile d'avoir accès à ces chiffres-là.
Et ça, c'est plus facile. À travers Bercy et le CSA, on peut donner une obligation, comme toutes les chaînes, on a obligation de déclarer les audiences. Eux aussi, peuvent avoir obligation de donner le nombre d'abonnés.
Une autre question qui concerne autant les chaînes de télévision que les plateformes le jour où elles paieront. Tous ces acteurs-là disent, nous on veut bien payer pour aider la création audiovisuelle. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait un pot différent pour le cinéma et un pot différent pour les téléfilms et les séries? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un pot commun pour tout le monde et comme ça on est débarrassé?
Je vais vous expliquer parce qu'il y a deux manières. L'art, c'est un marché de l'offre et pas de la demande.
Oui.
Donc surtout le cinéma et pas la série. Alors que la série, c'est un peu plus, c'est de la demande, c'est-à-dire ce que le public veut, on lui donne.
Oui.
Donc si on confond les deux budgets, le cinéma n'aura plus rien, parce qu'aujourd'hui il y a énormément de demandes, surtout par rapport à la série. Donc on transférerait l'argent du cinéma beaucoup plus vers la série, il resterait rien au cinéma. Alors que moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de propositions inhabituelles, même si j'adore les séries et il y en a des formidables. Mais il y a beaucoup plus de propositions innovantes qui échappent au calcul de l'algorithme dans le cinéma. Et en plus, c'est disproportionné. Par exemple, France Télévisions, le budget du cinéma, c'est 60 millions par an, alors que de l'audiovisuel, il est déjà à 400 et quelques millions. Donc si on prenait encore un peu plus des 60 millions du cinéma, il ne resterait plus rien.
Il nous reste une minute, justement, Radou Mikhaël, pour parler de l'avenir de l'audiovisuel public. Parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte, mais l'audiovisuel public, c'est-à-dire France Télévisions et Arte, France Télévisions Télévisions, on va prendre seulement le cas France Télévisions, c'est 60 millions d'euros par an pour le cinéma, 400 millions d'euros pour les séries, les téléfilms, les dessins animés et les documentaires. Alors, ces chiffres-là, pour l'instant, ils sont sanctuarisés. Le gouvernement a promis de ne pas y toucher, même si on nous demande beaucoup, beaucoup d'économies. Jusqu'à quand? C'est un énorme enjeu. D'accord? Oui. Alors, parlons du financement de l'audiovisuel public. Vous avez votre mot à dire l'avenir de la redevance et du financement de l'audiovisuel public.
Nous, on a une proposition parce que ça nous énerve énormément de toujours parler que d'économie et pas de mission du service public. Oui. Donc notre proposition, qui existe déjà dans certains pays, en Allemagne, en Angleterre, c'est une contribution universelle de tous les foyers imposables, bien sûr proportionnelle. C'est-à-dire les gens qui sont plus pauvres paieraient moins et ceux qui seraient plus riches.
Aujourd'hui, il y a 24 millions de foyers qui payent la redevance, qui va baisser d'un euro l'année prochaine. C'est la première fois depuis 15 ans qu'on baisse la redevance parce qu'on nous demande des économies, donc on se dit que du coup le contribuable va moins payer. 24 millions de foyers qui ont une télévision, parce que c'est encore sur le fait de posséder une télévision.
Oui, c'est ceux qui ont une télévision qui ont le droit d'écouter la radio.
Oui. Voilà. Vous dites en fait, tout le monde doit payer à condition qu'on ait imposable. Tout le monde, pourquoi ?
Tout le monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde possède au moins un écran et on regarde plus la télévision et on n'écoute pas la radio sur un écran de télévision. Donc aujourd'hui, on regarde la télé sur tout écran et tout le monde en possède un.
Et donc ça permettrait de faire payer combien de foyers ?
Ça permettrait d'augmenter de 24 millions de foyers à 34 millions de foyers. Donc ça permettrait peut-être aussi de baisser la contribution de chacun. Je dis comme ça, je lance au pif. Peut-être à 100 euros chacun au lieu de 138. Mais on élargirait l'assiette et on financerait un tout petit peu mieux le service public.
Radou Mikhaïlanou, vice-président de l'ARP, l'association des réalisateurs producteurs. Si vous êtes à Dijon, là pendant quelques jours, rencontre de la cinématographie, c'est absolument passionnant tous ces débats. Merci d'être venu dans l'instant. Et mais entre-temps, notre ami Xavier Delaporte.
Je suis désolé.
Mais c'est pas grave, ça arrive d'être coincé dans le métro parisien. Notre fenêtre du mardi matin, Xavier, maintenant que vous êtes arrivé, racontez-nous.
Je vais encore parler de Facebook, parce que Facebook a vraiment des manières extraordinaires de faire. Alors que son PDG, Mark Zuckerberg, se faisait encore devant le Congrès américain l'apologue de la liberté d'expression, le réseau social a modifié en loose day les standards de la communauté.
En loose day. C'est ça.
En gros, ce sont les règles de vie dans Facebook. Facebook et aussi Instagram, propriété de Facebook, vont désormais s'autoriser à dépublier des messages ou des photos qui comportent des émojis, vous savez, ces petits symboles, considérés comme sexuellement explicites.
Ah bon ?
Autrement dit, la pêche, l'aubergine et les gouttes d'eau, devenus dans le langage numérique des symboles sexuels, je vois pour la pêche, je vois pour l'aubergine, mais pas du tout pour les gouttes d'eau, feront donc l'objet d'une surveillance particulière quand ils apparaîtront sur des photos, des posts ou des conversations.
Mais vraiment, vous êtes sérieux ?
Oui, je suis sérieux.
C'est pas des représentations de zizi, de seins ou de je sais pas quoi, c'est des pêches et des aubergines.
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Bon, allez-y.
Américain quand même, on peut pas représenter ça.
Voilà, évidemment, la raison avancée par Facebook, c'est de lutter contre les gens qui utilisent la plateforme pour faire la promotion de prestations sexuelles tarifées, les escortes principalement, mais aussi ceux qui utilisent ces symboles pour renvoyer vers des contenus pornographiques. Bon, l'objectif est louable, mais il pose question. D'abord parce qu'il est toujours fascinant de constater la célérité et le zèle de Facebook quand il s'agit de censurer la nudité et le sexe. C'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de publicité politique mensongère, comme l'a encore expliqué Mark Zuckerberg devant le Congrès. La liberté d'expression, donc, est à géométrie variable. Ensuite, parce qu'il est tout aussi fascinant de constater à quel point Facebook est peu clair sur les conditions d'application de ces règles et les moyens qu'il se donne pour les faire respecter. Je vous lis le paragraphe des standards de la communauté qui concerne ce nouveau traitement des émojis. Je cite. Nous limitons également le langage sexuellement explicite qui peut mener à la sollicitation car certains groupes au sein de la communauté mondiale peuvent être sensibles à ce type de contenu, avoir un impact direct sur leur capacité à communiquer avec leurs amis et la communauté en général. What ? Mais qui comprend cette phrase ? Et puis, qui va évaluer le contexte pour différencier une simple relation entre adultes amoureux et une proposition de relation tarifée ? On ne sait pas. À chaque fois que ce type de modification a lieu, je repense à ce magnifique texte écrit en 2001 par le grand juriste Laurence Lessig, Code is law, le code informatique fait la loi, dans lequel il expliquait que nous étions dans une ère où le code informatique, c'est le code informatique qui décide de ce que nous pouvons faire ou pas dans la vie et qu'il fallait faire du code informatique un objet démocratique. On en est très loin avec Facebook. Enfin, dernière raison. Parce que l'utilisation de ces émojis, la pêche, l'aubergine et les goudos, je ne vois toujours pas à quoi sert les goudos, est une des manifestations de la créativité de cette nouvelle forme d'écriture. Quelle écriture numérique, une écriture où on a recours en même temps aux lettres, aux chiffres, aux symboles, aux onomatopées, etc. Je gage donc qu'il ne faudra pas longtemps pour qu'on trouve aux fesses, aux zizi et à ce que je ne vois pas, d'autres formes de représentation. C'est une constante de l'histoire de l'humanité d'avoir su braver les interdits et il y en a eu de plus violents que ceux de Facebook pour réussir à parler de ce qui l'anime vraiment, le cul.
Ah, voilà,
le cul pour Xavier Delaporte et le droit moral. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce matin dans l'Instant M, même si on a fait l'Instant M dans un ordre.
Oui, je suis désolé.
Tout à fait chamboulé à cause de Xavier Delaporte.
C'était M ou W, non, c'est plus.
C'est la fin de l'émission. Bon.